VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Violence au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué la double attaque contre l'ONU à Gao dans le nord du Mali et en fait 4 morts dans un casque bleu chinois. C'est ce que rapporte aujourd'hui SITE, une organisation américaine qui surveille les sites internet islamistes. ACMI affirme que l'attentat a été exécuté par des membres de Al-Mourabitoun, groupe du chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, qui s'est rendu célèbre par des opérations spectaculaires dans le Sahel. ACMI promet de communiquer ultérieurement plus de détails sur l'attaque. La première attaque à la voiture piégée a visé le camp de la MINUSMA de Bulgundi à Gao vers 20h45, temps universel, mardi soir. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
La forte détonation qui a été entendue s'est produite au niveau du camp de la MINUSMA 6 à Bulgundié en plein centre-ville, un camp tenu par le contingent chinois. C'est un véhicule piégé qui a voulu forcer le passage qui a explosé à la rentrée du camp, suivi de coups de feu qui seraient venus de l'extérieur. Des coups de feu qui ont duré plusieurs longues minutes, obligeant les populations prises de panique à se précipiter dans leurs maisons. Du coup, les rues sont devenues désertes. Des hélicoptères ont passé des heures à tourner au-dessus de la ville. Boubacar Touré, VOA Afrique.
Selon la MINUSMA, le camp a été aussi la cible de tirs de mortiers ou de roquettes. Un casque bleu a donc été tué et 3 autres grièvement blessés. À Pékin, la Chine confirme le décès d'un soldat chinois et réclame une enquête pour identifier les auteurs de ce qui est qualifié de crime grave et scandaleux. La nationalité des casques bleus grièvement blessés n'a pas été rendue publique par la MINUSMA, qui fait également état de plus d'une dizaine de membres de son personnel, dont des civils légèrement blessés dans l'attaque contre le camp de Bulgundié. La seconde attaque à Gao a visé les locaux d'un prestataire pour le service des Nations Unies de lutte contre les mines dans un autre quartier de la métropole du nord malien. 3 civils ont été tués, dont 2 agents maliens privés de sécurité qui gardaient les lieux et un expert international, précise la mission onusienne au Mali. Nigeria, un groupe rebelle a revendiqué aujourd'hui des attaques contre des installations du géant pétrolier américain Chevron dans le Delta du Niger. Les vengeurs du Delta du Niger ont affirmé sur Twitter que leurs combattants ont attaqué 2 puits pétroliers de Chevron aujourd'hui à 2h44, temps universel. Selon l'AFP, une source dans l'industrie pétrolière requérant l'anonymat a confirmé l'attaque sur 2 puits de pétrole. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a mis en place un groupe d'experts chargé de la rédaction d'une nouvelle constitution. Des experts parmi lesquels figure un de ses proches favorable à la levée du verrou de la limitation des mandats présidentiels. Ce groupe de 10 experts qui a un mois pour faire des propositions à M. Ouattara sera dirigé par le professeur de droit Boniface Obu Ouraga qui avait déjà travaillé sur l'actuelle constitution ivoirienne. Et puis le tout dernier épisode d'Ebola en Guinée a pris fin, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS souligne que la Guinée entre maintenant dans une phase dite de surveillance soutenue de 90 jours. Le pays vient de passer 42 jours sans nouveau cas depuis le second test négatif sur le dernier patient, soit 2 fois la durée maximale d'incubation. Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, les opposants réclament un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique FROCAD, une des principales plateformes d'opposition au président congolais Denis Sassou Nguesso, estime que la tenue d'un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale est l'unique possibilité de sortie de crise au Congo-Brazzaville. Même demande du côté du CNR, le Conseil national des républicains du Parti. Pasteur Tata Ntoumi. On écoute Sostène Samba du CNR au micro de Nicolas Pino.
Le révérend pasteur Ntoumi demande qu'il y ait cessation des hostilités, qu'il y ait cessez-le-feu et qu'il faut instaurer un dialogue entre M. Denis Sassou Nguesso et le CNR du révérend pasteur Ntoumi. Et que ce dialogue-là doit être supervisé par l'opinion internationale, donc l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Et aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévoit dans le pool, le révérend pasteur Ntoumi demande le dialogue pour épargner la population civile de ces massacres-là Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, Monsieur Nicolas, que la population du Pool est en proie au bombardement. C'est une population civile et désarmée qui ne demande rien qu'autre que la paix.
Sosthène Samba, joint à Montréal par Nicolas Pinault.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crime de l'ex-président tchadien Hissène Habré, Human Rights Watch prépare un rapport accablant sur le rôle de la France. Que savait Paris? C'est la question que se pose l'ONG de défense des droits humains basée à New York, qui enquête depuis 1999 sur le système de répression d'Hissène Habré et a préparé deux rapports en voie de finalisation. Un premier sur les relations entre le Tchad et les États-Unis et un second sur la France. Du fait de la coopération militaire entre Paris et N'Djamena, beaucoup s'interrogent sur le rôle de la France à l'époque. Nicolas Pinault a joint l'auteur du rapport, Henri Tulliet, consultant pour Human Rights Watch.
La France était certainement informée des exactions qui étaient commises au Tchad à l'époque du régime de Hissène Habré. Peut-être pas dans l'ampleur et dans le détail, comme ces preuves sont sorties dans le procès de Hissène Habré, mais il est indéniable que la France avait des informations. Il suffit par exemple de voir les nombreux rapports d'Amnesty International qui étaient publiés à l'époque sur le Tchad, notamment sur le sud du Tchad, où de 83 à 85 s'est déroulée une violente répression contre les populations civiles, surnommée Septembre Noir. On peut aussi rappeler que l'ambassadeur de France à l'époque a survolé cette région par avion et a pu constater depuis son avion les nombreux villages qui avaient été brûlés.
Au-delà de l'information, de la connaissance de ces faits, est-ce que la France a aidé d'une manière ou d'une autre le régime Hissène Habré?
On peut même dire que la France a permis à Hissène Habré de se maintenir au pouvoir pendant de nombreuses années, puisque Habré, qui était en guerre avec la Libye, avait besoin d'un soutien extérieur pour faire la guerre aux Libyens, mais aussi aux soldats du Gunt, ce gouvernement provisoire de Gukuni Wedei, appuyé par les Libyens et qui essayait de reprendre le pouvoir. Ainsi, la France a déployé une très grosse opération militaire en 83-84, qui s'appelle l'opération Manta, qui est le plus grand déploiement de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Puis, à partir de 87, l'opération Épervier, où là, on a déployé des avions d'observation et d'attaque. Mais pendant toute la durée du régime de Hissène Habré, il y avait aussi une grande coopération militaire, puisque la France a livré une quantité impressionnante d'armes, a mis à disposition de l'état-major de l'armée tchadienne des conseillers français, des officiers de l'armée française. Et puis, par exemple, la France avait aussi sur place des agents de la DGSE qui devaient, en théorie, faire remonter l'information vers Paris, notamment sur les exactions qui étaient commises. On a aussi la preuve que des formations étaient faites entre des agents de la DGSE et des agents de la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, qui est la police politique du régime Habré et le principal organe responsable des crimes qui ont été commis.
Est-ce que la France a toujours montré une volonté de faire la lumière ou elle oppose forcément le secret défense?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de nos enquêtes, on a eu du mal à obtenir des entretiens, des rendez-vous avec des personnes qui jouaient un rôle important à cette période. On a eu, et je les remercie, des personnes qui ont évidemment accepté de nous parler. Nous avons aussi demandé à ce que les archives de l'Élysée portant sur cette époque soient déclassifiées, ce qui nous a été refusé afin de ne pas porter atteinte à la politique étrangère de la France.
Henri Tulliet, consultant de Human Rights Watch, joint à Paris. Et puis au Kenya, Nairobi réaffirme sa volonté de fermer d'ici à novembre le camp de réfugiés de Dadaab, qui accueille essentiellement des Somaliens fuyant leur pays en guerre. Miley Segal.
Avec plus de 350 000 personnes, ce camp est le plus grand du monde. Il est situé près de la frontière avec la Somalie, déchirée par une guerre civile depuis plus de 20 ans. Depuis un mois, le gouvernement kényan répète qu'il veut fermer le camp de réfugiés somaliens pour des raisons de sécurité. Nairobi affirme, sans donner de preuves, que c'est à Dadaab qu'ont été planifiées les attaques des islamistes Shebab contre le centre commercial Westgate en 2013 et l'université de Garissa en 2015. Les ONG et l'ONU qualifient cette décision de très préoccupante. Des militants des droits de l'homme ont signalé que le rapatriement des réfugiés constituerait une violation du droit international. Selon Ben Lawrence, auteur du livre City of Thorns, qui raconte la vie de réfugiés à Dadaab, le Kenya fait de la surenchère pour obtenir plus d'argent pour l'accueil des réfugiés, construire des écoles et des routes dans le nord-est du pays et renforcer la sécurité autour des camps. La dernière fois que le Kenya a menacé de fermer Dadaab, en avril 2015, les États-Unis avaient promis 45 millions de dollars.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.